Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller, chapitre 14. Les marmottes n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Le constat est sans appel. Léonce, mieux que quiconque, les observe depuis quelques jours. À cette période de l'année, elles devraient être plus enrobées de graisse. Or, toutes celles qu'ils croisent ont le ventre à peine proéminent. Si l'hiver à venir est trop long, ce sera la catastrophe. Lorsque l'épuisement de leurs réserves les réveillera, elles termineront leur existence de la manière la plus abominable. Elles sortiront de leur terrier et finiront épuisées sur la neige et la glace. Les anciens lui ont raconté des histoires semblables. Pour ce qui concerne les chamois, le processus est presque identique, mais moins visible. Seuls les éléments les plus solides résisteront. Les vieux iront finir solitaires dans un amas rocheux. D'autres prédateurs nettoieront la montagne. Pour les jeunes, ce sera légèrement différent. Le groupe les abandonnera au dernier moment, lorsqu'ils n'auront plus la force de suivre. Voilà les dégâts que risque d'occasionner cette sécheresse. Depuis 2 jours, le berger s'apprête à redescendre. Les préparatifs ont été minutieux. Tout y est passé, y compris l'état des sabots de Blanquette et Castagnette. L'ânesse et la jument ont les pieds en bon état, pas de souci à leur sujet. Les chiens ont bien travaillé tout l'été. Il y a même 3 patous de plus qui ont presque 3 mois et supporteront sans problème ce petit voyage. L'inspection du troupeau réalisée s'est avérée satisfaisante. Sauf accident, le berger espère amener à bon port toutes les bêtes. Pour cela, il a prévu une longue halte pour faire reposer les brebis les plus faibles. Il s'est levé très tôt. Il veut être au village en début d'après-midi. Dans la pénombre, les choses s'accélèrent. Les animaux sentent qu'il se passe quelque chose. Le troupeau est fébrile malgré l'heure matinale. Les cimes commencent à se couvrir d'une couleur orangée. Le jour va se lever. Comme pour la descente du chalet d'en haut, l'ordonnancement est identique. Castagnette ouvre la voie. Léonce et Biribi suivent. Blanquette reste en retrait de quelques mètres. Le bétail a pris quelques minutes d'avance. Le temps de plier les filets, d'enlever les piquets et d'arrimer le tout sur le dos de la jument. Martine se charge de la sale besogne. Elle prévient l'éleveur de Camargue de la date de restitution de son cheptel. Il n'est pas content du tout et vocifère dans le combiné. Elle lui fait comprendre que la sécheresse touche aussi les Alpes et qu'en conséquence, chacun doit en payer son tribut. Après quelques borborygmes supplémentaires, l'homme se calme et parvient à fixer une date raisonnable avec elle. C'est aujourd'hui que ça se passe. La descente se déroule sans trop de difficultés. Il y a bien de temps à autre quelques bêtes qui tentent de partir dans les combes, mais sont vite récupérées par les collets et réintègrent le reste de la tribu. Il faut environ 3 heures pour rejoindre avec un troupeau la première cabane. Le berger veut faire reposer les bêtes au moins pendant 2 heures au milieu du trajet. Il espère arriver au village avant 14 heures, car il faudra trier et compter les animaux. Le paiement de l'estive n'aura lieu qu'après cette dernière formalité. Il serait aussi judicieux d'accorder quelques heures de repos aux brebis avant de les charger dans les camions qui rouleront dans la nuit vers la Camargue. Martine a déjà mis en place les clôtures pour accueillir leur propre cheptel. Biribi ne quitte plus son maître. Même pendant la pause déjeuner, il se tient à quelques mètres de Léonce. Le berger n'a que sa guitare sur le dos. Il regarde avec nostalgie s'éloigner les cimes. Un été de plus s'est envolé. La mélancolie s'est installée dans ses yeux. Le loup n'est plus qu'une péripétie qui recommencera la saison prochaine. Il préfère la transhumance du mois de juin, porteuse d'espoir. Celle de fin d'été annonce d'autres saisons. La nature est laissée en jachère pour 10 mois. Sur le sentier qui monte vers l'alpage, un homme s'est engagé. Sa dégaine est particulière. Ce n'est pas un montagnard. Il porte un chapeau noir à large bord, vissait sur sa tête. Une chemise à carreaux noirs et rouges. Autour du col, une cravate américaine qui se compose d'un lacet coulissant autour d'une broche représentant une tête d'aigle. Un bolo. Le pantalon et les bottes complètent le costume de gardien. Le propriétaire du troupeau va à la rencontre de Léonce. Il a entendu les clochettes tintinabuler. Il lui tarde de retrouver ses brebis. Les pentes escarpées ne font pas partie de son quotidien. Il s'essouffle et s'arrête souvent pour reprendre sa respiration. Chaque année, s'il le peut, il aime retrouver son ami en chemin. Ils font un bout de route ensemble, comme au bon vieux temps, avant que Léonce n'ait son propre troupeau. Ils ont travaillé ensemble dans les étendues plates, quelque part entre Arles et les Saintes-Maries de la mer. Le montagnard garde un souvenir ému de cette période. Sa période chien fou, c'est la dénomination qui convient le mieux, selon lui. Marius Pagès possède aussi quelques chevaux camarguais. Ils ont souvent galopé de front au bord des étangs. Le galop des chevaux, dans quelques centimètres d'eau, offre une sensation inoubliable. C'est cela que les deux hommes se remémorent chaque année. Pendant les derniers hectomètres, le temps sera suspendu. Ils seront redevenus les complices de leurs 20 ans. Marius s'assied chaque saison sur le même rocher. Il attend de voir apparaître au détour du sentier son ami, le troupeau, les chiens et Biribi. Le Camarguais savoure le spectacle, partage des émotions semblables à celles du berger. Ils ont en socle commun l'amour de la terre, celle qui emmène le voyageur dans de fabuleux périples. Il est inutile de décrire leur trouvaille. Ils arrivent enfin au village, dans un concert de bêlements et de clochettes. Blanquette est impatiente de se débarrasser de sa charge. Les bêtes sont parquées dans un pré à l'ombre en dessous du cimetière. Elles pourront se reposer avant le retour au bercail. Martine a préparé le repas. Les chauffeurs sont aussi conviés à partager ce moment de convivialité. Marius sait qu'elle lui a concocté son menu préféré. Il mange 3 diots avec de la polenta et se racaler pour 5 grosses minutes. Chacun déguste et prend son temps. Il fait encore très chaud pour la saison et les animaux seront installés dans les camions en fin d'après-midi. Tous se mobilisent pour procéder au comptage des bêtes et à leur séparation. L'opération se déroule sans encombre. Martine ayant sollicité les bras musclés des chauffeurs et de Marius pour installer les barrières. Elles sont disposées en forme d'entonnoir afin de ne laisser passer qu'une bête à la fois. Le comptage est rapide. Pour réaliser l'opération, il aura fallu moins de 2 heures. 8 bêtes sont mortes ou disparues, plus l'épisode du loup où une 30aine de brebis ont péri au pied de la falaise. Le bilan total est de 38, un nombre trop élevé. Léon sait qu'il ne sera pas payé sur ces têtes-là. Marius aura droit à une compensation par la commission prévue pour aider les éleveurs victimes du prédateur. Il sera faiblement indemnisé, dans 1 an ou 2. Marius convient que son ami n'y est pour rien et décide de couper la poire en 2. Il ne retire que 20 brebis perdues, le reste est pour lui. Martine a rangé précieusement le chèque qui représente le plus gros gain de l'année et se demande si l'an prochain Marius aura autant de brebis. La sécheresse fait peur à tous. Ils en parlent peu, mais elle est présente dans leurs esprits. Le Camarguais a pu se rendre compte, sur le sentier, de l'étendue de la catastrophe. Léonce et Marius n'aiment que les retrouvailles. Alors pour le départ, par un accord tacite, chacun a trouvé une bonne raison de ne pas saluer l'autre. L'un est parti dans la bergerie, l'autre s'est engouffré dans un camion, le convoi s'est ébranlé. Le village va reprendre à son gré le rythme des saisons. L'hivernage est à préparer. De retour au village, Léonce prépare la saison d'hiver. Ici, la transition entre les saisons est de courte durée. Lorsque l'automne prendra ses quartiers, les journées seront courtes. Le soleil se cachera vite derrière les sommets. Le matin, il tardera à montrer le bout de son nez. Depuis la fin de l'estive, le beau temps continue de ravir les oisifs. Il est très inquiet. En quelques jours, son troupeau a nettoyé les prés autour de la bergerie. Il ne reste presque plus de terrain à pâturer. La sécheresse s'acharne à poursuivre sa sale besogne. Tout est sec et rabougri. C'est la partie émergée de l'iceberg. Aussi forte qu'elle soit, la nature aura du mal à rattraper ce déficit. En montagne, plus qu'ailleurs, la rupture d'un cycle naturel est une catastrophe. Le temps est compté pour que les pâturages se refassent une santé. Ce manque se répercutera sur plusieurs saisons. Il est certain que l'année prochaine, l'herbe sera courte. Les bêtes ont attaqué les ballots restants de l'année passée. C'est le souci du moment. Léon se trouve qu'il est dramatique de nourrir les moutons avec de l'herbe sèche en cette période. Ses stocks étant presque épuisés, il va falloir commander du fourrage et de l'ensilage. Aujourd'hui, il part faire du bois au bord de la rivière asséchée. Il a prévenu Martine, il emporte un casse-croûte. Il ne remontera pas pour le repas de midi. De toute manière, son épouse travaille et ne sera de retour que vers 18 heures. Elle lui demande de faire attention à lui. Elle connaît l'endroit où son époux va couper les arbres. Il y a beaucoup de pentes. Le site est réputé dangereux. Un villageois s'y est noyé il y a une dizaine d'années, et c'est lui qui l'a trouvé dans un trou de la rivière. Actuellement, il y a très peu d'eau. Les risques sont moindres. Cela rassure sa compagne. Il emmène Blanquette avec lui, elle peut être utile pour tirer un tronc ou des branches. Ce soir, Ghislain vient souper à la maison. C'est lui qui s'occupe de commander et livrer la paille, le fourrage et l'ensilage dont Léonce a besoin. Il négocie au mieux les tarifs. Il paraît que les prix ont explosé. La pénurie sévit dans de nombreuses régions d'élevage. Un collègue éleveur a dit au berger que la direction de l'agriculture organisait des convois pour approvisionner les exploitants. Un plan de grande envergure a été mis en place. La rumeur se répand comme une traînée de poudre. Des camions de fourrage viendraient d'Angleterre. Avec une pointe d'humour, Léonce avertit son collègue. Si nos brebis se mettent à parler anglais, il ne nous reste plus qu'à acheter un dictionnaire. Au repas du soir, Ghislain confirme les craintes, les Anglais envahissent les bergeries et les étables. De toute manière, les quantités disponibles dans l'Hexagone ne suffiront pas pour passer l'hiver. Des éleveurs seront contraints de vendre du bétail. Cela fera baisser les cours et générera de grosses pertes. C'est un cercle vicieux qui se met en route. Le mal est pernicieux, mais les plus faibles périront. Martine pose une question innocente à son cousin. Quel prix tu pourrais nous avoir? Il n'est pas capable de donner un chiffre précis, mais affirme qu'il faudra compter de 50 à 70% plus cher que l'an passé. J'espère pouvoir te fournir avec des produits français. Léonce lui dit que sinon il ne le recevra plus chez lui. Les deux hommes trinquent amicalement pendant que Martine apporte le gigot. Tard dans la nuit, Ghislain redescend dans la vallée. Il est prudent et ne roule pas vite. Il ne prendra que les petites routes, car ce soir, il doit dépasser la dose autorisée. Il a trop besoin de son permis de conduire. Léonce s'est levé de bonne heure. Aujourd'hui, il va à la ville. Une journée particulière se profile. Il a un rendez-vous important à 10 heures. Avec ses amis éleveurs, ils sont reçus à la préfecture avec 3 ministres et des délégués de l'arc alpin. Avant de prendre la voiture et de descendre dans la vallée, le berger donne à manger à ses bêtes. Malgré le beau temps, elles broutent du fourrage et de l'herbe d'ensilage. Ce sera comme cela jusqu'au printemps prochain et probablement au-delà. 8 éleveurs, représentant les massifs savoyards, sont conviés à la réunion. Léonce s'attend à une séance crispée. Les refus des montagnards le mois précédent restent gravés dans les mémoires. Les décideurs n'aiment pas être dans l'impossibilité de décider. Afin de montrer leur cohérence et de faire preuve d'une solidarité à toute épreuve, les hommes ont convenu de se voir dès 8h30. Il s'agit de démontrer que la mobilisation et la motivation restent intactes. Le loup doit être traité en prédateur. Les autorités devront faire le bon choix. Pour y parvenir, les éleveurs vont s'employer à les aider. Ils montreront du doigt les incohérences des politiques menées et les dangers d'une désertification des petits villages de montagne. Au café du palais, ils ne passent pas inaperçus. Aucun n'a mis une tenue de ville. Le grand chapeau noir, les jeans ou les pantalons de velours avec une chemise épaisse, tel est l'habillement du groupe. Ils ont aussi de grosses chaussures de montagne. Il est certain qu'à la préfecture, l'effet sera garanti. Attablés devant un café ou un verre de blanc, ils entament la discussion. Tous se connaissent depuis longtemps. Bergers pour la plupart, ils savent écouter l'autre. Le tour de table aboutit sur une résolution. Il faut faire plier les responsables politiques. Il en va de notre survie. Léonce n'est pas en reste. Il connaît l'adversaire. Les attaques de l'été sont dans les mémoires. À l'unanimité, ce sera lui le porte-parole du groupe. 5 minutes avant l'heure, la troupe se présente aux grilles de la préfecture. « On dirait une forteresse assiégée », dit l'un des participants. « Oui, mais le mot « seigneur » ne s'écrit plus pareil », rétorque un autre. Un responsable de bureau vient les chercher à l'entrée. « Ça occupe du personnel », lance un autre. Le constat est simple. C'est la rencontre de deux mondes. À l'heure précise, ils sont introduits dans une salle. Sur la porte, une affiche indique « Commission du loup ». Personne ne fait de commentaires. Ils sont les premiers. Léonce n'apprécie pas beaucoup que ces messieurs ne soient pas là. Enfin, une dizaine de personnages, plus tristes les uns que les autres, font leur apparition. Ils font le tour de la salle pour serrer la main des éleveurs. Il y a des poignées de main molles et des regards fuyants. Jusqu'où va se nicher la différence, pense-t-il. Les bureaucrates se sont posés sur la chaise avec leur nom devant eux sur la table. Le préfet marmonne quelques mots de bienvenue. La sincérité de ses propos a du mal à se propager, comme si son cœur retenait ses lèvres. Les règles du jeu de la séance sont fixées. Chaque ministre ou son représentant fera une courte déclaration. Ensuite, la parole sera donnée à chaque éleveur pour une durée identique. Après, les questions viendront, et en fin de séance, des propositions seront faites par l'intermédiaire du préfet. La langue de bois est un art. Manifestement, les virtuoses poussent la démonstration à un niveau proche de l'excellence. Les éleveurs ne sont pas dupes. Le cinéma commence à durer. À 13h30, le préfet demande une suspension de séance pour permettre à chacun d'aller se restaurer. Reprise des discussions à 15h30. Les deux groupes ne choisissent pas la même cantine. Les montagnards se dirigent vers le restaurant Le Beaujolais, qui sert de la cuisine familiale à un prix raisonnable. Les ministres et le préfet ont réservé leur table dans un endroit plus feutré, où le décor remplit l'estomac. Cela fait partie de la dure vie de l'homme politique. Il faut tenir son rang. Lors de la reprise, les éleveurs expriment leur mécontentement. Rien de concret ne se profile. Le loup s'est transformé en agneau avec la complicité de la baguette magique des ministres présents. Face à l'exaspération des bergers, l'éradication de 6 loups est proposée. Aucun n'est satisfait. Les éleveurs se lèvent comme un seul homme et quittent la préfecture. Léonce et ses amis, écœurés, se promettent de ne pas en rester là. Le combat ne fait que commencer. Une chaleureuse poignée de main met fin à cette journée de mascarade. Ils se disent à bientôt et prennent le chemin de leur village. Léonce a hâte de se retrouver avec sa compagne qui lui fera oublier l'aigreur de cette journée. Dans le col qui mène au village, les arbres prennent les couleurs d'automne. Ce sont des teintes féeriques que ni le vent ni la pluie ne sont venus altérer. Cela ne dure pas très longtemps. Roulant doucement, il veut profiter des éclats du soleil couchant sur les cimes des arbres, qui est comme une auréole posée sur la forêt. Il contemple Dame Nature et se dit, rien que pour ce spectacle, cette journée méritait d'être vécue.